France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Un voyage sensoriel dans le grenier à épices de l'Inde. Le Kerala est le plus grand producteur du pays. Le monde entier se fournit ici.
C'est dans le nord du Kerala, dans le Wayanad, où il y a environ 120-150 producteurs. Il a fallu différentes personnes pour nous aider, en particulier Bina, qui est une Française d'origine indienne, Bina Parada, qui fait d'ailleurs très jolis livres sur la cuisine indienne. Et de cette manière, on a pu travailler d'une manière totalement responsable.
La cuisine indienne, c'est avant tout une cuisine de femme. C'est une cuisine qu'on se transmet de mère en fille.
Ici, au Kerala, on ne peut pas imaginer manger nos plats sans épices.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est un savoureux et lointain voyage qu'on vous convie aujourd'hui. Un voyage qui a le goût des épices, de la noix de coco, de la menthe, de la coriandre. Un voyage en Inde, et plus particulièrement dans une région du sud de l'Inde, le Kerala. Mais c'est aussi, en ce dimanche 8 mars, journée internationale des droits des femmes, une émouvante histoire de femmes qu'on vous raconte, une histoire de famille et de transmission, avec notre invitée du jour, Bina Paradin Migoto. Bonjour !
Bonjour François-Régis, bonjour à toutes et à tous.
Ravi de vous retrouver, Bina, à ce micro, vous êtes déjà intervenue. Carnet de cuisine d'une famille du Kerala, c'est le très beau livre que vous signez avec votre maman, que je vous prie de citer puisqu'elle est co-autrice de ce livre.
Voilà, co-écrit avec ma maman, Pat Mavati.
Absolument, aux éditions de La Martinière, avec les photos signées Isabelle Rosenbaum. Ce livre est tout à la fois un recueil de recettes, un carnet de voyage, un album de famille. Vous allez nous raconter, chère Bina, cette histoire familiale et culinaire. Et vous allez nous faire goûter quelques-unes de vos recettes préférées, on a hâte. Et d'ailleurs, il y a déjà des effluves épicées dans ce studio, c'est absolument incroyable. Avec nous également pour partager cette aventure indienne, Elvira Masson, Zazie Tavitian et Justine Knapp. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour, bonjour à tous.
Elvira.
Agricultrice, les inégalités sont dans le pré.
Et oui, avec un livre passionnant à la clé dont on vous recommande déjà la lecture, Zazie.
Moi je me suis incrustée dans la cuisine d'Ashvin Marius Le Prince, un chef originaire de Pondichéry, mais on a quand même demandé quelques conseils à sa grand-mère Marguerite pour la recette.
Ah ouais, génial, et je crois que ça sent bon la coco, sa recette. Justine.
On a discuté boisson et cuisine indienne avec Bina Paradin Migoto et on verra ce qu'on peut boire avec ces recettes.
Mariage d'amour à la clé, j'en suis sûr. Pour réagir et poser vos questions, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com. Le podcast d'On va déguster est dispo sur l'appli de Radio France et retrouvez tous nos contenus, nos adresses, infos pratiques, les très belles recettes indiennes de Bina Paradin Migoto sur radiofrance.fr à la page On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry. On va déguster.
Mais juste avant la leçon de cuisine familiale de Bina Paradin, un coup de cœur. Vous connaissez la tradition. Ah, on est déjà en train de renifler au micro d'On va déguster. Je vous ai glissé une petite chose à manger sous vos micros, mesdames.
On peut croquer ?
À vous de croquer, évidemment. D'abord, alors, de quoi s'agit-il déjà, comme ça ?
Un petit cookie.
Ouais.
Un petit biscuit.
Oui, sec. Biscuit. Absolument sec. D'ailleurs, ça s'entend. D'accord. Alors, je vous annonce que vous avez chacun un petit parfum à deviner. Il y a un parfum dominant, comme ça, dans ce biscuit. Je vous laisse la parole. Déjà, vous aimez ou pas ?
Très bon.
Ouais, très bon.
Très bon. Croquant, friable.
Ouais. Bonne texture.
Sucré.
Moi, j'ai bien aimé la texture. Pas trop sucré, il est vrai.
Un petit morceau de caramel, un petit truc un peu de chewy dedans aussi.
Ouais. Ah.
Moi, ce serait sarrasin, mon
Justine
petit
gâteau. Justine Knapp, sarrasin, bingo ! Bah, un point pour Justine, elle est forte. Hein.
Bah,
Justine,
coco,
à chaque fois... Ah, intéressant, Bina.
Noix de coco.
Très bien. Alors ça, c'est effectivement un des parfums dominants. Il y a la noix de coco associée à... Vous le voyez d'ailleurs sur le biscuit, je crois, non ? Non ?
Il y a des pépites,
non ? Oui.
Les pépites... Le chocolat.
Voilà. Chocolat, coco pour Bina Paradin, bien joué.
Moi, c'est frais et un peu chaud, un peu piquant.
Alors,
c'est du gingembre.
Frais, ça m'intéresse. Ben, on est
ou
pas
citron.
Loin. Citron, bravo. Un point. Elvira, c'est citron bon, avec. Et qu'est-ce qui croque ? C'est un petit oléagineux.
Ah ouais ? Une graine de quelque chose ?
Graine
ou... des petits éclats d'amande.
Bravo. Et ben voilà. Citron, amande pour Elvira. Elle a la pression, ça dit. Parce que tout le monde a trouvé. Hein.
Je faisais comme à l'école, j'essayais de me cacher derrière le bureau pour... pas qu'on m'interroge. Je sais pas du tout. J'avoue.
C'est pas un classique.
Mais c'est... Voilà, c'est assez classique. Est-ce qu'il y a un peu de petites pépites de chocolat.
Bravo, pépites de chocolat. Et
l'autre, je l'ai... Noisette, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais.
Mais vous l'avez dit. Noisette, on l'a dit ensemble.
Un petit peu en même temps, ouais, et... ça me paraissait trop simple pour être.
Franchement, là, vos palais sont bien affûtés parce que c'est un sans faute pour tout le monde. Chocolat coco pour Bina Paradin, citron amande pour Elvira, sarrasin pour Justine, vous l'avez dit, chocolat noisette pour Zazie. C'est un petit biscuit, attention, qui est bon, mais surtout qui a tout bon. Il est bon, il est bio et il est Andy Gaspi. Je m'explique. C'est l'histoire d'Alix Guyot, Louise Douillet et Katia Tardy, une équipe 100% féminine d'ingénieurs qui ont toutes les trois travaillé dans l'industrie agroalimentaire et qui ont pris conscience à cette occasion de l'importance du gaspillage alimentaire. Elles se sont rencontrées dans une association qui œuvre pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Elles deviennent amies, toutes les trois, et elles décident de s'associer en 2021 dans un projet gourmand et engagé. Ça s'appelle Quignon, avec un K. Et c'est aujourd'hui une biscuiterie installée à Savenay, on est près de Nantes, en Loire-Atlantique, la terre historique du biscuit, comme vous le savez, en France. Et la fabrication de leurs biscuits bio repose sur 1. Une démarche anti-gaspi qui consiste à réemployer des invendus de pain transformés en chapelure. Cette chapelure remplace la farine. Cette start-up nantaise traite quotidiennement 500 baguettes venant notamment de la boulangerie Bio Fournil dans le Maine-et-Loire et fabrique jusqu'à 40 000 cookies sucrés et salés par jour. Là, je ne vous ai fait goûter que les sucrés. Et deuxième mission, favoriser le travail des personnes en situation de handicap, d'où l'expression que je trouve très belle, biscuit Andy Gaspi. Notre trio d'associés a formé et embauché 30 personnes en situation de handicap mental ou psychique, en plus de 15 autres salariés. C'est une très belle histoire qui gagne, une histoire, une success story, puisque leurs biscuits ont beaucoup de succès dans les magasins relais, dans de nombreuses grandes surfaces et dans les magasins bio, Bio C'est Bon, Biocop, etc. Voilà. Vive Quignon, c'est une très belle aventure, en plus c'est bon.
Magnifique et délicieux.
Vous,
très bon.
vous validez ces biscuits, toutes les infos sur Quignon avec un K. Et c'est à retrouver sur radiofrance.fr à la page On va déguster. Pour cuisiner cette émission en régie, Laurent Thomas, Julien Thévenot, Fabrice Ribault, on retrouve les saveurs indiennes de Bina Paradin Migoto. Juste après, pour se mettre dans l'ambiance, je sais que Bina adore ce titre, on l'a choisi pour vous. Mundian Tubaki de Panjabi, MC, choisi par Djoubaka. Bon voyage et bon appétit sur France Inter. Les saveurs indiennes de Bina Paradin Migoto, notre invité du jour. C'est notre menu du jour dans notre émission. Bina Paradin, même à 11h, passé de 13 minutes, c'est toujours l'heure du chai.
C'est toujours l'heure du chai, d'un thé au lait à l'indienne avec un mélange d'épices qui peut varier selon la région dans laquelle on est en Inde, ou même la famille.
Et vous nous l'avez préparé, il est tout chaud, dans nos bols, voilà. Siglé Radio France. Le chai, ou plus précisément le masala chai, parce qu'alors, le chai c'est donc ce...
Le chai c'est le thé,
cette, simplement. C'est cette décoction à base de thé, de lait,
Et d'épices. Mais
simplement.
Qui peut être dans sa version la plus simple, sans épices, un peu à l'anglaise.
Oui.
Et on y rajoute des épices qui peuvent être soit toutes seules, on peut avoir un chai à la cardamome ou un chai au gingembre. Mm-hmm. Et la plupart du temps, ce sont des mélanges d'épices. Donc là, ce qu'on est en train de déguster.
Alors, n'en dites pas trop justement sur le mélange d'épices. Vous percevez des choses ou pas, Zazie, Justine,
Elvira? Ça sent la cardamome à l'année de rentrer dans le studio. Donc je ne sais pas si c'est dans le chai ou ailleurs.
Vous tombez bien parce que c'est la signature aromatique préférée de Bina Paradin, la cardamome.
Et la cardamome, exactement. Et c'est celle qu'on va retrouver aussi dans le chai que je fais avec la maison Rollinger, qui est la note dominante. Mais là, j'ai fait un chai en partant de chacun des ingrédients individuellement. Donc, il y a en effet de la cardamome, de la cannelle, une pointe de clou de girofle, du gingembre frais et donc du lait. On peut rajouter du sucre. En Inde, il est traditionnellement sucré, mais moi, je n'ai pas un goût très sucré. Donc, je le sers très souvent pas sucré.
Sachant qu'il a, ce fameux chai, traditionnellement, une vocation ayurvédique, médicinale.
Historiquement, c'était des boissons. En fait, avant que les Anglais n'introduisent le thé en Inde, il y avait cette boisson qui était une décoction d'épices qu'on buvait à la fois pour le plaisir et aussi pour le côté santé, ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans beaucoup de recettes indiennes, qui est cette idée qu'on peut se faire du bien en ayant beaucoup de plaisir à manger son plat. Donc dans le chai, on va trouver toutes les épices qui vous maintiennent en bonne santé. Et là, effectivement, je voulais charger un petit peu en cardamome et un petit peu en gingembre parce qu'on est dans cette période où c'est à la fin de l'hiver, on n'est pas toujours très en forme. Moi-même, là, je souffre vraiment du début des pollens, donc j'avais envie de quelque chose qui vous dégage un peu les voies respiratoires. Donc c'est aussi cette idée de soigner par ce qu'on mange ou ce qu'on boit au quotidien.
La cardamome est réputée rafraîchissante, la cannelle est une bonne régulatrice de digestion. Vous avez mis également un peu de clou de girofle qui a des propriétés antiseptiques.
Exactement.
Et ça donne une boisson en plus délicieuse.
Délicieuse. C'est rare de la goûter pas sucré.
Oui,
et
c'est
vrai. Ça marche très bien.
Oui.
Ah ouais. En fait, c'est vrai que du coup, le fait qu'il n'y ait pas le sucre qui vient enrober, c'est le lait qui joue le côté un petit peu onctueux.
Et c'est encore plus frais.
Oui. Ouais.
Le chai, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a encore 10-15 ans, on disait chai en France, on ne connaissait pas vraiment. Et ça illustre la façon dont justement la cuisine indienne a commencé à imprimer les esprits en France. On assiste depuis... on pourrait presque prendre comme date de départ 2009, qui est la date de la première édition de votre livre « Inde, carnet de cuisine d'une famille du Kerala » aux éditions de La Martinière. Vous en ressortez une version améliorée, augmentée, enrichie de quantité de recettes. Et ça, c'est lié au fait que la connaissance française de la cuisine indienne a quand même progressé.
Énormément, puisque quand j'ai fait ce livre en 2009, à l'époque, les restaurants indiens, c'était un peu la caricature des sculptures de Ganesh avec du naan poulet tandoori, pas toujours de très bonne qualité. Et aujourd'hui, il y a une scène culinaire qui commence à se développer très fortement. Et il y a eu aussi beaucoup de littérature autour de la cuisine indienne. Il y a eu plusieurs autrices, notamment des gens comme Sanji, comme Jody Danas aussi, que vous avez reçu.
N'oubliez pas de vous citer quand même, Bina Paradin, parce que j'ai énormément contribué à la connaissance des épices en France, à la connaissance de recettes indiennes emblématiques.
Et j'étais en effet, je pense, pionnière sur le sujet. D'ailleurs, ce qui m'avait motivée, moi, au départ, parce que c'est pas du tout mon métier, la cuisine, ce n'est que ma passion, ce qui m'avait motivée à faire mon tout premier livre, c'était la déception que je voyais dans l'idée que les Français avaient de la cuisine indienne, qui était une cuisine très piquante, très grasse, pas bonne, dans des restaurants où il n'y a pas forcément des bons ingrédients. Et ça n'avait rien à voir avec ce que je goûtais à la maison. Donc j'avais vraiment envie de faire connaître cette cuisine de famille qui, à mon sens, est délicieuse, équilibrée, qui est pleine de saveurs, pleine de joie. Et j'avais vraiment envie que les Français puissent connaître cette cuisine.
Parce que, disons-le, vous êtes française d'origine indienne, vos parents, venant du Kerala, se sont installés en banlieue parisienne au mi-temps des années 70.
Exactement.
Vous êtes issue d'une famille avec une forte culture indienne. Encore une fois, on est dans le sud, puisque le Kerala, rappelons que c'est le long de la côte de Malabar, dans le sud-ouest du pays.
C'est vraiment la pointe de l'Inde, sur le côté ouest.
C'est ça. Et la passion pour la cuisine est dans votre famille une histoire de femme.
C'est une histoire de femme, en effet, qui m'a été avant tout transmise par ma mère, qui nous écoute. Et
qui avait, paraît-il d'ailleurs, beaucoup de mal à cuisiner indien quand elle est arrivée en France, parce qu'il fallait qu'elle aille acheter ses épices, ses fauchons.
Mais évidemment, puisque dans la France de la fin des années 70, début des années 80, il n'y avait pas encore toute l'offre exotique qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'achetez de la cardamome, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous allez en trouver. À l'époque, le rayon épices, c'était juste du poivre, de la muscade, peut-être quelques clous de girofle. Et puis c'est tout quoi. Donc mes parents, puisque pour le coup mon père était très gourmand, et donc je pense qu'il a beaucoup aidé ma mère à trouver les ingrédients. Mes parents faisaient le tour de Paris pour trouver les ingrédients qui leur manquaient dans leur cuisine. Donc ils allaient dans les grandes maisons comme Fauchon et Hidiard pour trouver la cardamome, toutes les épices hein, plus pointues qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et ils allaient beaucoup chez Tang Frère aussi, qui était le pourvoyeur de produits comme du riz blanc parfumé.
Ou des produits un peu plus tropicaux, parce que le Kerala, évidemment, il y a ce climat tropical de la côte de Malabar, et c'est vrai que la noix de coco, alors qu'elle soit fraîche, qu'elle soit râpée en lait de coco, elle est très présente dans la cuisine du Kerala.
Elle est indispensable, on l'utilise vraiment dans 80% des recettes, je pense. Donc c'est impossible de la remplacer en plus, parce que pour moi, par exemple, un curry à base de lait de coco, si on remplaçait par un ingrédient facile à trouver, comme la crème, on n'aurait pas du tout le même résultat, ni le même plaisir. Et donc c'était la quête, en effet, de la noix de coco.
Sachant que votre maman tient son répertoire culinaire de votre grand-mère. Un hommage à votre grand-mère qui était, paraît-il, j'aurais tant aimé goûter sa cuisine, une formidable cuisinière, mais surtout une cuisinière du quotidien, qui était capable, comme vous l'écrivez très bien dans votre livre, qui est, je le disais, pas qu'un livre de recettes, c'est vraiment votre témoignage familial qui fait toute la richesse de votre livre, avec de très très belles photos qui ont été prises à différentes époques. Mais votre grand-mère était capable de faire des merveilles, des étincelles, avec trois fois rien.
Exactement, parce que je trouvais le plus épatant dans la cuisine de ma grand-mère, c'était de goûter des plats hyper simples du quotidien indien, comme une bouillie de riz et de haricots mongo, par exemple, et qui était assaisonné à la perfection, cuit à la perfection, qui faisait que ce plat, qui pouvait être presque punitif dans l'absolu, était un vrai délice.
Je vous cite... La philosophie de ma grand-mère, qui a fortement influencé toutes les femmes de ma famille, peut se résumer en une phrase. Cela ne coûte pas plus cher si c'est bon. Qu'il y eut des disettes, des mauvaises moussons, des guerres, ma grand-mère se débrouillait toujours pour servir des délices à la table familiale. Grâce à elle, tout devenait bon. Son génie culinaire m'a fait apprécier les plats paysans les moins sophistiqués. Comme vous le dites, une bouillie de riz et de soja, le sempiternel plat des plus pauvres, était aussi un régal avec un peu de noix de coco fraîche du jardin. Et du ghee, ce beurre clarifié, fait maison.
C'est très simple, mais absolument excellent. Et dans mon modèle familial, puisqu'on est le 8 mars, je souligne aussi le rôle de mes cousines, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des modèles de femmes qui allient à la fois l'indépendance et cette fonction nourricière. Et ce que je trouve remarquable chez mes cousines, qui sont un petit peu plus âgées que moi, qui m'ont vraiment servi de modèle quand j'étais jeune...
Et qui vivent en Inde,
pour la plupart, c'est qu'elles ont toutes fait des très bonnes études, elles ont des postes ta responsabilité, mais cependant, elle continue à jouer ce rôle nourricier, à être toujours passionnée par ce qu'elle serve tous les jours et aller chercher des nouvelles recettes, aller explorer d'autres territoires indiens que le Kerala pour finalement innover au quotidien à leur table. Et pour moi, ça a été vraiment... les modèles qui m'ont inspiré.
Parce que c'est vrai qu'on a un peu ce cliché en France et en Occident du statut des femmes en Inde qui globalement restent à la maison et ne travaillent pas. Heureusement, leur rôle évolue.
Le rôle évolue. Alors effectivement, en Inde, je pense que de façon générale, on ne peut jamais donner de généralité puisque les choses vont très fortement dépendre d'une région à l'autre, d'une communauté à l'autre. Mais mon constat, c'est qu'aujourd'hui, au Kerala, les femmes sont véritablement dans une posture d'indépendance assez assumée.
Alors vous, n'en parlons pas. Enfin, vous êtes... française d'origine indienne et vous vivez en France, Bina, avec beaucoup de succès à la clé, un vrai métier, un statut d'entrepreneuse, puisque vous avez notamment monté cette collection avec beaucoup de succès à la Maison Rollinger, dans la Maison Rollinger, vous le disiez.
Oui, le mélange d'épices issus de la culture indienne, où on propose sept mélanges qui sont les grands classiques pour cuisiner indien. Et on a conçu avec Mathilde Rollinger un petit coffret qui vous emmène en Inde et qui sort cette semaine avec quatre mélanges pour vraiment pouvoir cuisiner de façon très simple des recettes du quotidien en les assaisonnant soit avec du masala, soit avec du panchfaran, avec vraiment des mélanges qui vous sortent de l'ordinaire.
Et en même temps, vous continuez l'aventure familiale de la cuisine indienne, puisque dès l'âge de 19 ans, vous commenciez déjà à codifier les recettes de votre mère et de votre grand-mère. Alors j'aime beaucoup l'anecdote que vous racontez. Lorsque vous vous émancipez du foyer familial et que vous découvrez la vie d'étudiante, vous voulez faire découvrir la cuisine indienne à vos amis. Ça se passe pas tout à fait comme prévu dans la kitchenette de votre petit studio parisien.
Oui, en effet, j'avais l'impression, en ayant cuisiné avec ma mère, que je maîtrisais les recettes, mais je me suis rendu compte que de les faire toute seule, c'était une autre affaire. Et donc, j'appelais ma mère et je notais sur des petites fiches en Bristol, qui me servaient aussi de fiches de Bristol pour mes révisions, je notais les ingrédients et les quelques étapes clés des recettes. Et ça a été ma première base culinaire pour me devenir indépendante dans cette cuisine. Et ça a servi de base dans l'écriture de mon tout premier livre, puisque c'était les premiers éléments que j'avais codifiés. Et puis, entre-temps, j'avais beaucoup d'amis qui me demandaient des recettes. Donc, j'ai commencé à les écrire de façon plus rédigée pour que ça soit utilisable par quelqu'un d'autre que moi.
Dans votre livre, il y a une grande partie qui concerne le Kerala, avec des recettes familiales vraiment traditionnelles de cette région du sud-ouest de l'Inde. On peut dire que c'est une cuisine plus tropicale avec, vous l'avez mentionné, beaucoup de lait de coco et de coco de manière générale sous toutes ses formes. Des épices aussi évidemment, mais des mélanges peut-être un peu différents. Il y a notamment dans votre livre, alors c'est pas la recette que vous allez nous faire goûter dans un instant et qui est en train de circuler sous nos micros, mais c'est le moli, qui est un curry de poisson typique du Kerala. Ça c'est vraiment, vous m'avez dit, le plat emblématique qu'il faut connaître.
C'est emblématique du Kerala, c'est pour les Indiens dans d'autres régions de l'Inde, quand ils vont penser à un plat du Kerala, ils vont penser au moli, et le moli c'est vraiment le plat du jardin. On y met de la noix de coco qu'on a dans son jardin au Kerala, il n'y a pas de mélange d'épices, on y met des épices brutes, donc on met de la cannelle, on met des clous de girofle, on met du gingembre, donc c'est toutes des choses que vous pouvez aussi trouver dans votre jardin, du lait de coco, de l'oignon, de la tomate, on fait compoter tout ça, et dedans on rajoute soit le poisson qu'on fait pocher directement, soit vous pouvez faire griller un petit peu votre poisson et le rajouter dans la sauce.
Ça peut être avec de l'espadon comme dans votre livre.
Ça peut être avec de l'espadon, ça se fait très bien avec n'importe quel poisson qui se tient bien à la cuisson, ou ça peut se faire aussi avec des fruits de mer, on peut le faire par exemple avec des crevettes, j'adore la version aux crevettes.
Sachant que les poissons et les fruits de mer sont évidemment très très présents dans la cuisine du Kerala pour des raisons géographiques.
Oui, puisqu'on est tout au long de la côte.
Et preuve que vous ne vous cantonnez pas aux frontières du Kerala, votre livre apporte également son lot de recettes qui viennent d'autres régions de l'Inde, des recettes parfois même du Nord, que vous avez réussi à tropicaliser entre guillemets. Et il y a un brillant exemple. Ah là, vous êtes déjà en train de finir vos assiettes.
C'est bon. Pardon.
Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est parfait. Il est. Alors là, on a affaire à un truc. Comment vous pourriez définir ça?
Alors un poulet extrêmement moelleux et une sauce onctueuse, j'allais dire presque un peu crémée, pleine de gingembre, vive, fraîche, parfumée, enfin c'est vraiment un régal quoi.
Oh là là.
C'est très
Merci
confortable beaucoup. Et très frais.
Ouais, très frais, très frais.
Justine.
C'est vrai que ça, il y a quelque chose où ça fait ouvrir la poitrine, on respire comme ça, non? Mais c'est
très très parfumé.
Zazie qui a la bouche pleine.
La bouche pleine, ouais, non mais il y a vraiment ce côté gingembre et en même temps, je sais pas comment dire, assez doux du gingembre, c'est pas le gingembre
piquant.
Oui.
Alors, c'est une recette de curry emblématique. Avec une petite touche du sud, est-ce que vous réussiriez à définir ce curry, à lui donner un nom?
Elvira, c'est un korma.
Bravo.
Oui, bravo.
Poulet, korma. Alors, A priori, poulet korma, on est tous sauf au sud de l'Inde, oui, Bina.
On n'est pas du tout au sud de l'Inde au départ. Le poulet korma, c'est le plus aristocratique, je dirais, des currys de poulet indiens, puisque c'est une recette de cour, issue de la cour moghole, hein, donc qui sont ce peuple qui a envahi puis régné sur l'Inde depuis le nord. Et les moghols étaient des cuisiniers qui ont apporté énormément dans la cuisine indienne et qui ont fait notamment la rencontre entre la cuisine perse, qui était une grande cuisine du Moyen-Âge, et les épices indiennes. Donc il y a toutes ces sauces très crémeuses, etc., qui ne sont pas du tout dans l'originalement ce qu'on aurait trouvé en Inde, qui rencontrent les épices. Donc le korma, c'est exactement ça. On dit que le korma aurait été servi à l'inauguration du Taj Mahal, donc c'est vraiment un plat emblématique.
Aristocratique.
Et là, on en a une version plutôt du Kerala, je dirais.
Mais oui.
Puisque on retrouve la base aromatique classique avec le safran, la cardamome, donc c'est un curry très opulent avec des parfums voilà, très opulents.
Girofle, coriandre en poudre.
Exactement.
Il y a effectivement cette note très fraîche de gingembre qui est très agréable.
D'ail, qui fait partie des incontournables de la recette.
Mm-hmm.
Et il est lié dans le nord de l'Inde avec une crème d'amande ou de noix de cajou. Et dans le sud, on va faire la même chose avec de la crème de coco.
Et voilà.
Donc c'est la version plutôt sud que je vous fais goûter, mais qui est une interprétation du korma.
Et ça, c'est vraiment une recette du nord de l'Inde que votre famille a intégrée en fait, dans son répertoire.
C'est pour le coup une recette qu'on fait beaucoup dans le Kerala, qu'on va trouver dans pas mal de familles. C'est une recette qui est descendue et comme beaucoup de recettes indiennes, quand elles se répandent dans le pays, elles vont à chaque fois attraper les parfums ou les tours culinaires de la région dans laquelle on les adopte.
On nous demande déjà sur les réseaux sociaux de France Inter quelle partie du poulet on utilise pour cette recette.
Alors, en Inde, traditionnellement, on utilise toujours un poulet entier dont on enlève la peau. Et cette partie enlever la peau est très importante puisque sinon on a un curry qui est très gras. Donc, poulet entier, découpé en morceaux.
Alors, quand on ne sait pas le faire, on demande à son boucher de découper un poulet ?
Alors, mes bouchers sont tous des spécialistes de la découpe de poulet.
Magnifique.
Sans peau, parce qu'ils le font très souvent pour moi.
Donc, c'est toutes, voilà. Toutes les parties du poulet, en fait.
Toutes
la fois
les, parties,
les blancs, les hautes cuisses, les pilons.
Exactement.
Et on les coupe en petits morceaux. Et ensuite, à peu près combien de temps pour faire cette recette, Bina ?
Il faut mariner le poulet. Donc ça, c'est une étape importante qui fait vraiment la structure de la recette korma. On marine le poulet pendant au moins une heure.
Avec des oignons, l'ail, le gingembre.
Avec les oignons, l'ail, le gingembre, la coriandre, une pointe de piment, le sel. Et ensuite, on fait mijoter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avec le yaourt et la crème de coco.
Voilà.
Qu'on rajoute à la fin.
Et toujours, on fait chauffer les épices dans le plat de cuisson légèrement avant d'entamer le processus.
Alors,
pour qu'elles expriment leur arôme.
Au départ, on va faire revenir une partie des oignons vont être mixés pour faire la sauce et l'autre partie va être revenue dans de l'huile ou du ghee. Et quand on a fini de faire fondre les oignons, on rajoute les épices brutes qui sont dans le plat, donc le clou de girofle, la cannelle, et on fait revenir le tout avant de rajouter le poulet mariné.
Ce qui veut dire que les épices prennent un coup de chaud et libèrent ainsi leurs arômes, leurs parfums.
C'est là où elles sont à l'optimum de leur parfum, des fois.
Oh là là, encore de ce poulet korma. Quel vin pour un mariage d'amour avec la cuisine indienne ? Réponse, peut-être, avec Justine Knapp.
On va déguster sur France Inter.
Justine Knapp, je crois savoir que ces derniers temps, vous avez beaucoup échangé avec notre invitée Bina Paradin-Migoto.
Oui, et ce qu'on s'est dit avec vous, Bina Paradin-Migoto, c'est que sur votre table familiale, il n'y avait pas de vin. L'Inde n'est pas un pays buveur de vin, même si, depuis une vingtaine d'années, le vin séduit une niche, une classe moyenne aisée, urbaine. Il y a des acteurs locaux du vin en Inde, des vignes. Mais vous m'avez expliqué, Bina, qu'en mangeant, à la maison ou au restaurant, on sert plus naturellement un lassi salé. La recette, elle est dans votre livre, où on sert des eaux infusées, chaudes ou à température ambiante. Par exemple, une eau de cumin digestive pour alléger un biryani. Et cette eau de cumin, je l'avais évoquée dans une chronique, émission Couscous. C'était une recette tirée de votre livre « Boire les épices » écrit avec Mathilde Rollinger.
Exactement.
Sur votre table familiale désormais, Bina, avec vos recettes, vous servez donc ces eaux et aussi du vin dont vous êtes amatrice. quels accords avec la cuisine indienne ? Question aussi pertinente que de se demander quel vin avec la cuisine européenne.
Oui, c'est vrai.
L'Inde est un pays aussi vaste que l'Europe, avec ses spécificités régionales contrastées. Au nord, des plats riches, crémeux, de l'agneau. Dans le Kerala, dont vous êtes originaire, la noix de coco omniprésente, l'acidité, les produits de la mer. Ailleurs, dans le sud-ouest, une cuisine sucrée-salée. L'accord vin-cuisine indienne, donc au pluriel, il est réputé complexe. Certes, il n'y a pas de repas séquencé, les plats sont servis en même temps. Six saveurs fondamentales que l'on combine selon son envie, son besoin. Sucré, salé, amer, acide, astringent, salé. On crée des couches de goût.
Astringent, épicé ?
Astringent, épicé, tout à fait. Sucré, salé, amer, acide, astringent, épicé. On crée des couches de goût et certes avec de l'intensité, mais la marche en termes d'accord est-elle vraiment beaucoup plus haute qu'une tablée de tapas espagnole relevée, que la cuisine à l'ail provençale, que le tranchant des fermentations de la cuisine nordique ? Cette barrière de la complexité, est-ce que ce ne serait pas en bonne partie simplement de la méconnaissance ? Accord ni développé, ni pratiqué. Quand on ne renonce pas à choisir une belle bouteille par peur des épices. Londres, évidemment, pour des raisons historiques, Londres a une longueur d'avance en la matière. On compte 7 restaurants indiens étoilés et certains intègrent des grands noms du vin à leur carte.
Londres, oui, une des capitales de la cuisine indienne dans le monde, en dehors de l'Inde, évidemment.
Pour mon jardin.
Et en France, ces accords jusque-là peu explorés, ils pointent doucement le bout de leur nez. On l'a dit, à Paris, une nouvelle vague de restaurants propose une cuisine plus régionale, plus sophistiquée dans le sillage londonien, avec un soin particulier accordé à la carte des vins.
Alors Justine Knapp, on est très curieux de savoir le choix que vous avez fait en matière de vin pour accompagner la cuisine indienne.
Je me suis basée sur les repas du quotidien, donc se préparer à la maison, que vous rappelez Bina en introduction de votre livre, donc repas composé d'un légume ou d'un poisson préparé, un curry ou un dal, du riz, des galettes, une sauce à base de yaourt et des pickles. Alors si on doute en matière de vin, si on a envie de ne pas trop y penser, ce qui me donne envie personnellement, c'est un vin de macération, réputé pour sa polyvalence, vin orange, aromatique, dynamique, main très légère sur les tanins pour éviter un durcissement face aux épices. Et sinon, plus précisément, on pourrait imaginer le vin comme un élément à piocher parmi les autres sur la table. Un vin qui aurait le rôle du raita, donc c'est ce condiment à base de yaourt qui rafraîchit le palais entre deux bouchées corsées.
J'adore ça.
Ce vin raita, je l'ai apporté.
Un vin raita, voilà une bonne définition pour le vin blanc qui circule dans nos verres à pied.
Donc ce vin, il a d'abord une rondeur qui enveloppe la bouchée épicée. Cette rondeur, elle vient de la sucrosité du raisin et d'un long élevage sur lit. Et puis le vin passe le relais dans une pulsation de fraîcheur, une grande force vive,
bon,
léger en alcool, parce que je trouve que les épices, elles ont tendance à accentuer le côté chaleureux d'un vin. C'est un Riesling 2023 pur raisin de Dambar-la-Ville et ses sols granitiques, cuvée grain de sable, vigneron Léo Diringer, prix domaine 14 euros.
C'est bon.
Très bon, et l'accord est
merveilleux. Très belle tension, une grande longueur en bouche. Vous validez ce choix pour affronter les épices de la cuisine indienne, Bina?
Je pense que ça marche particulièrement bien avec le korma qu'on a dans nos assiettes.
Ça marche très bien.
Ça répond au gingembre notamment. Moi j'ai le gingembre qui s'amplifie en bouche comme une petite caisse de résonance grâce à ce très joli Riesling du vigneron Léo Diringer.
Diringer, exactement.
Wow, merci beaucoup. Et il est vrai que lorsque l'on veut éviter l'alcool et que l'on déguste une cuisine indienne, comme le rappelait Justine Knapp, on peut s'orienter vers un lassi salé. Définition du lassi?
Alors, le lassi, c'est une boisson à base de yaourt. Et pour la version salée, la vraie version est à base de buttermilk, donc de petit lait.
Mais qu'on peut trouver, le buttermilk, pour le coup, même dans les magasins bio.
Oui, et on peut surtout la faire à base de l'éribo en France, puisque ça marche, c'est un excellent remplaçant de la version indienne. Et on y rajoute du sel, des épices, pour soit, effectivement, être servi comme un tout petit plat à côté des autres et qui de fait devient une boisson plat. C'est assez hybride comme usage.
Et dans votre lassi, il y a effectivement du gingembre frais, du piment vert, de la coriandre fraîche, un petit peu de sel. Et ça fait une excellente boisson avec du yaourt ou du lait ribot.
Exactement.
Très bien. Sinon, il y a l'eau de cumin aussi. Hein.
L'eau de cumin, dont je suis une grande fan, que je bois depuis que je suis toute petite et qui est effectivement une des recettes qu'on a beaucoup mise en avant dans Boire les épices avec Mathilde Rollinger.
Un super bouquin dont on avait déjà parlé. En effet, vous nous l'aviez fait goûter juste une nappe, cette eau de cumin avec une cuillère à soupe de graines de cumin que l'on fait... Que l'on place dans une théière après les avoir pilées dans un mortier.
Voilà, c'est extrêmement simple à faire.
Une belle eau digestive en plus. Le cumin accompagnant évidemment une bonne digestion.
Et ça marche très bien avec la girofle aussi. Délicieux.
On peut le faire avec plein d'épices graines. Ça peut se décliner avec effectivement du girofle, on peut le faire avec du gingembre. Et dans les graines, on peut le faire avec du fenouil ou du fenugrec.
Très bien. Dans un instant, attention, ouvrez bien vos oreilles, Bina Paradin. Zazie nous emmène à la rencontre d'un super ambassadeur de la cuisine indienne en France. Lady de Olivia Dean en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la cuisine indienne au menu de notre émission du jour avec notre invitée Bina Paradin Migoto. Et attention, Zazie Tabitian nous fait découvrir le répertoire très intéressant d'un cuisinier indien installé à Paris.
On va déguster François-Régis Gaudry sur France Inter.
Zazie Tabitian, vous nous avez rapporté des choses à déguster, c'est chouette. Où est-ce que vous êtes allé les cuisiner ?
Eh ben, je me suis rendue chez Ashvin Marius Le Prince. Ashvin, il est cuisinier, il a longtemps été le chef du restaurant Arboré de l'hôtel Royal Madeleine à Paris. En ce moment, il prépare la réouverture du restaurant Maharaja, un vieux restaurant historique dans le 5e arrondissement de Paris. Et il a pour projet de bientôt ouvrir son adresse à lui, où il préparera de la street food du sud de l'Inde. J'ai pas eu le droit de savoir ce que c'était, mais ce sera certainement très bon. Mais ce matin-là, nous n'étions pas dans sa cuisine professionnelle, car je me suis rendue chez lui, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, pour cuisiner ensemble une recette familiale.
Salut.
Salut.
Enchantée.
Ashvin.
Zazie. Hop, par là.
Ouais.
Merci de m'accueillir chez toi. Toi, ta famille, elle vient de Pondichéry, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, dans le sud de l'Inde, qui est une ancienne colonie française. Ma famille est de nationalité française depuis les années 1880 environ. Et ça fait deux générations, donc c'est mes grands-parents qui sont arrivés en France. Donc mon grand-père, qui est 100% indien, est né à Saïgon, ancienne colonie française aussi. Ma grand-mère a pas mal vécu à La Réunion. Donc il y a vraiment un mélange de cultures, que ce soit la cuisine créole, la cuisine vietnamienne, la cuisine indienne bien entendu, et aussi la cuisine française, avec des petits apports à chaque fois, à chaque génération. Donc c'est ça qui est super intéressant. Par exemple, du côté de mon grand-père, c'était le porc au caramel, les benbao, donc c'est les brioches fourrées au porc, par exemple. Après, ma grand-mère me faisait pas mal de rougail saucisse et tous les plats indiens du sud de l'Inde. Ouais, ça a bercé mon enfance.
Et quand je t'ai demandé de réfléchir ou choisir une recette, tu as pensé à une recette qui est la recette que tu demandais à ta grand-mère pour tes anniversaires.
Et que je demande toujours exactement, c'est Tengapal Colombe. Je ne sais pas si je le prononce très bien parce que je ne parle pas très bien tamoul. Mais donc c'est un bouillon au lait de coco avec des épices, des graines de moutarde, des feuilles de curry. C'est cette odeur aussi qui m'a marqué en fait, c'est... Quand on fait rissoler les graines de moutarde et les feuilles de curry dans de l'huile de coco, ça embaume la pièce en fait. Et c'est même là, je pense que tu peux sentir.
Oui, déjà, il y a l'odeur feuilles qui met l'eau à la bouche.
Ouais, c'est ça.
Alors, nous étions sur le point de cuisiner, mais vous devez connaître ça, Bina. Avant de nous lancer, on avait besoin d'un petit point recette. On a appelé Marguerite, la grand-mère d'Ashvin.
Allô ?
Allô ?
Allô, Hachi ?
Oui. Oui, ça va, ça va ?
Ça va, ça va. Une question, Hachi. Tu sais, le curcuma ? Tu le mets avec les graines de moutarde, enfin quand ça crépite, tu le fais rissoler un peu, ou alors tu le mets dans le directement dans le lait de coco.
C'est-à-dire tu peux mettre dans le lait directement, hein.
Ah oui.
Voilà.
Ok. Merci Hachi.
Une fois la bonne utilisation du curcuma validée, nous sommes lancés. Donc l'idée était de faire des croquettes de poisson, du riz basmati et ce fameux bouillon coco. J'ai demandé à Ashvin de commencer en me donnant les ingrédients pour le bouillon.
On a les graines de moutarde, on a du tourdal, on a les feuilles de curry, donc je vais tout rassembler. Il y a aussi un ingrédient que je vais sortir là, mais c'est le piment séché. Donc c'est des petits piments rouges séchés qu'on fait aussi revenir dans l'huile pour donner le goût. À part si on tombe dessus, et là c'est très piquant, mais sinon c'est juste pour aromatiser le plat. Tout ça en fait, on va le faire rissoler dans du ghee et de l'huile de coco.
Donc là, tu as mis ta casserole sur le feu.
Ouais. Donc là, il faut attendre que l'huile elle soit chaude pour mettre tout ça. Si on met les épices à l'intérieur et que ça chauffe après, ça a le temps de brûler. Pendant ce temps, comme ma grand-mère m'a dit tout à l'heure, en fait, je vais mélanger mon lait de coco avec le curcuma et du sel. Donc pour que ça soit déjà assaisonné. Une cuillère à café rase, faut pas que ça soit trop jaune, hein. Jaune pâle, c'est bien. On veut quand même sentir le reste des épices et le lait de coco. Là, ça crépite. C'est le moment. Faut pas attendre trop longtemps.
Donc là, t'as versé le lait de coco.
Ouais. Le jus de citron, on va le garder vraiment pour la fin. Parce que quand on fait chauffer le jus de citron, ça change de goût. Par contre, le tamarin... On va le mettre dès maintenant. Là, c'est de la pâte de tamarin qu'on va diluer dans de l'eau chaude. Et ensuite, on va récupérer que le jus. C'est l'acidité, en fait, qu'on veut. Hein. Le bouillon est devenu un peu plus jaune de par le curcuma. Et à partir du moment où ça bout, bah là, on sait qu'on peut s'arrêter. On ne veut pas que le lait de coco réduise trop.
Et là, ça y est, notre bouillon, il est prêt.
On va juste rajouter le jus de citron à la fin et finir l'assaisonnement. Donc, si ça manque de sel ou de tamarin.
Et bien là, c'est très beau, on va pouvoir passer... Est-ce qu'on déjeune ensemble ?
Bah oui, bien sûr.
Tant mieux, parce que j'ai commencé vraiment à avoir faim. C'est super bon.
Tu hoches la tête, tu valides.
C'est peut-être juste une pointe un peu plus acidulée que quand ma grand-mère le fait. Mais en termes de goût, je suis satisfait.
Ah bah il peut, hein, parce qu'alors, régal. Zazie Tamitsan nous a rapporté cette recette de bouillon coco avec des graines de moutarde, ces feuilles de curry ou feuilles de curry, on peut dire les deux, parfois même à La Réunion on dit caloupilé aussi. Hein.
Ouais. Et on vient la verser sur du riz basmati, et je vous ai fait à côté, parce qu'ils font ça dans la famille d'Ashvin, des petites croquettes, là c'était des croquettes de thon, hyper rapides à faire et assez savoureuses avec gingembre, ail, curcuma... cumin. Et je vous ai mis toutes ces recettes sur le site de l'émission. J'ai tout mis.
Je vous en conjure, auditeurs, auditrices, faites ça à la maison. C'est un voyage étonnant, un vrai régal. Je trouve que la feuille de curry qu'on trouve désormais un peu partout dans les épiceries indiennes, mais également asiatiques, car elle est utilisée dans les cuisines de l'océan Indien, la cuisine mauricienne, la cuisine réunionnaise. C'est là où on l'appelle, comme je le disais, le caloupilé. Il y a vraiment pour moi ce parfum un peu de pierre à fusil.
Un truc un peu fumé, en fait, qui rend de la profondeur à la recette.
Oh là là.
Et effectivement, on en trouve de plus en plus souvent. Il y en a aussi chez Épicerie Rollinger. Mais c'est typiquement un ingrédient dont on peut se passer. Pendant des années, j'ai goûté la cuisine de ma mère sans ces fameuses feuilles de curry. Et les plats sont quand même délicieux. Mais c'est sûr que quand on la rajoute, ça apporte cette profondeur qui est inégalable.
Vous nous avez apporté, merci beaucoup Zazie, hein. Vous nous rappelez le nom de ce très bon cuisinier dont on attend avec impatience l'adresse de Street Food à Paris.
C'est Ashvin Marius Le Prince, et pour suivre ce qu'il fait, il faut aller sur sa page Instagram,
ouais,
il tiendra au courant.
Voilà. Je vais aller le voir, je le suis désormais. Bina, je le disais, vous voulez nous convaincre que la cuisine indienne, mais je pense qu'on va être convaincu assez facilement, rend hommage aux légumes, et c'est une très bonne stratégie pour manger des légumes un peu différemment, pour en quelque sorte les sublimer, les métamorphoser avec quelques touches faciles à porter comme ça sur, en l'occurrence, un chou.
Oui, je trouve que la cuisine indienne regorge de recettes de légumes qui sont plus délicieuses les unes que les autres. Et je vous ai apporté un chou sauté, comme on fait au Kerala. Donc l'idée de ce chou sauté, c'est que très souvent, j'ai des gens qui me disent qu'ils soit ils n'aiment pas le chou, soit leurs enfants n'aiment pas le chou, etc. Et on finit par vraiment attaquer le plat sans fin, parce que ça réconcilie vraiment avec n'importe quel légume, et c'est une recette très simple.
Qui nous offrirait une petite description sensorielle, Justine? Un chou en fine lanière déjà, oui, bien coloré en jaune.
Oui, en toute, moi je trouve ça super parce que c'est toute fine lanière, donc il y a quelque chose de très aérien en fait en bouche, et les épices, je trouve qu'elles viennent casser le côté un peu chou, terre, enfin voilà, de légumes un peu. Mais c'est vrai, ça rehausse, ça lui donne un côté tout de suite plus sophistiqué, plus délicieux, très bon.
Et les graines noires, c'est quoi? C'est de la nigelle ou c'est de la moutarde?
Non, c'est de la graine de
moutarde,
comme dans le plat d'Ajvine avant.
Et ouais, je devine, par la couleur, orangée, une forte présence du curcuma.
Exactement, curcuma, cumin, graines de moutarde et feuilles de curry. Oh. Et de la noix de coco.
Alors la noix de coco, là, elle est râpée, je crois.
Elle est râpée, mais c'est de la noix de coco séchée, râpée.
Wow. Oui, c'est des morceaux plutôt assez épais sur Exactement. Lesquels on tombe d'une bouchée à l'autre, quoi.
Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que cet environnement aromatique du Kerala peut accompagner les légumes au fil des saisons, en fait, parce que vous faites également cette recette avec des légumes de printemps, comme les jeunes navets.
Moi, je fais toujours des recettes avec ce qu'on trouve au marché à côté de chez moi, donc fatalement sur le marché français. Et donc, je le fais avec tous les légumes nouveaux. En hiver, je le fais avec le chou, avec le panais, c'est délicieux, avec la betterave. Je peux aussi le décliner avec de la patate douce. C'est vraiment, enfin, je crois qu'il n'y a aucun... Et l'été, avec de l'aubergine.
Hein. Ça va avec tout.
Ça va avec tout. Je n'ai jamais fait un essai qui n'était pas bon.
Et on s'adresse aux auditeurs et aux auditrices qui ont des problèmes... de légumes avec leurs enfants. Vous avez réussi à convaincre plein d'enfants grâce à cette combinaison aromatique.
Et j'ai régulièrement la situation d'avoir des enfants, d'amis qui viennent dans notre maison dans la Drôme notamment, et qui vont dire qu'ils n'aiment pas tel ou tel légume et qui vont se mettre à dévorer le plat simplement parce qu'il est assaisonné complètement différemment.
Et à chaque fois, vous taillez tout petit?
Alors, c'est pendant longtemps, je me rebellais contre ma mère qui disait que c'était bien meilleur quand tout était taillé petit. Mais il faut reconnaître qu'avec l'âge, je me suis mise aussi tout taillé en microscopique et je trouve ça bien meilleur.
Mais c'est flatteur pour les enfants aussi, je pense.
C'est oui, c'est beaucoup plus simple que le gros morceau de chou qui est moins vendeur. Quoi.
Puis comme disait très bien Justine, c'est vrai que le chou, là, on commence à en avoir ras la casquette.
On rêve de petits pois, là.
3,
oui,
4,
oui, c'est la période.
Ben là, à la limite, on a à nouveau envie de chou grâce à votre assaisonnement et votre condimentation. Merci beaucoup Bina Paradin pour cette très belle recette. La chronique d'Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Elvira Masson, vous vous intéressez à la place des femmes dans le monde agricole.
Savez-vous qu'une personne sur quatre exerçant aujourd'hui dans l'agriculture dans le monde est une femme? Que 50% de l'alimentation mondiale est produite par les femmes, un chiffre qui monte à 80% sur le continent africain. Mais qu'elles ne sont que 10% à posséder leurs terres à l'échelle mondiale et 30% en France, et que seuls 20% sont chefs d'exploitation en France. Longtemps invisibles et même pas nommées dans un monde agricole modelé par et pour les hommes, le mot agricultrice n'entre en France dans le dictionnaire qu'en 1961, elles travaillent autant et souvent plus que les hommes, mais sont frappées d'inégalités de façon systémique, alors même, selon une projection de la FAO, que si on donnait plus de pouvoir aux femmes dans le monde agricole, on diminuerait la faim dans le monde de 17%. C'est tout le propos d'un essai-enquête formidable, signé Clotilde Bateau, Agricultrice, semer, nourrir, résister, qui est publié aux éditions Les Pérégrines. Alors Clotilde Bateau, elle est engagée depuis plus de 20 ans dans le secteur agricole. Elle est co-déléguée générale de l'association Sol, qui valorise le rôle des paysans paysannes et aide les personnes non issues du monde agricole à s'installer. Alors son enquête est implacable, elle est étayée de faits historiques, de données statistiques, de témoignages. Je vous livre comme ça quelques points saillants en vrac de ces inégalités, mais il faut vraiment lire ce livre pour démonter tous les rouages de ces inégalités systémiques. Il y a pour les femmes, outre des inégalités salariales énormes, des difficultés tout aussi énormes dans l'accès aux terres, aux fonciers, même aux métiers via la formation, suspicion, délégitimation, difficultés à souscrire un emprunt bancaire. Il y a des inégalités, une violence économique. Les femmes sont donc encore très peu chefs d'exploitation. Elles n'ont souvent au mieux qu'un statut un peu bâtard de conjointe collaboratrice, qui les rend dépendantes financièrement de leur conjoint. En cas de séparation, elles perdent leur statut social, leur travail, un travail qui bien souvent n'a pas été comptabilisé au fil des ans. On comptabilise 130 000 agricultrices sans retraite. Elles portent également un fardeau invisible, la double charge de travail, le travail domestique après l'activité professionnelle, exacerbé par la nature même du travail agricole qui empêche la séparation entre travail et famille puisqu'on vit le plus souvent à la ferme. En cas de congé maternité, pas de remplacement ou plutôt un dispositif insuffisant et compliqué à mettre en œuvre. Résultat, 40% des agricultrices n'ont pas recours au dispositif. Évidemment, peu de représentation dans les structures syndicales, moins de 15% de femmes, dans les coopératives agricoles, dans les organes de décision. Aucune commission agricole à l'Assemblée nationale n'est présidée par une femme. Et quand elles sont en poste, en général, c'est que leur famille vient du monde agricole. Mais, et c'est aussi là que ce livre est vraiment épatant, au-delà de cette démonstration historique implacable, c'est que ça change, c'est qu'il y a des leviers, de l'espoir. Les mentalités évoluent, surtout parmi les jeunes générations. Des collectifs féminins et paysans s'organisent. Une nouvelle génération de femmes émerge et s'installe, composée notamment de personnes non issues du monde agricole, 30% des nouvelles installations, qui contribuent aussi ainsi à la remise en cause des normes sociales du milieu. Les femmes accèdent en général à des exploitations plus petites, donc elles ont dû s'adapter, innover. Elles sont plus enclines à choisir des modèles d'agroécologie. Et là, le livre regorge de témoignages passionnants de paysannes extraordinaires qui contribuent à changer les choses en profondeur, en s'organisant de façon collective, mutualiste. Et il y a aussi pas mal de pages consacrées à des modèles qui fonctionnent ailleurs. En Inde, par exemple, l'association Sol travaille de près, depuis longtemps, avec Navdanya. Ça vous parle, Bina ?
Oui.
C'est l'ONG créée par l'activiste écoféministe Vandana Shiva, il y a 35 ans, qui promeut une agriculture respectueuse des droits humains et de l'environnement, fondée sur l'autonomie des agriculteurs RIS, faisant notamment des paysannes indiennes les gardiennes des semences libres, garantes de la préservation de variétés locales ou anciennes. Un patrimoine, ou plutôt un matrimoine immense et un enjeu d'avenir. Et je laisse Clotilde Bateau conclure. Elle reprend les mots de Lorraine Malka, qui est autrice également au Pérégrine d'un livre qu'on avait beaucoup aimé, qui s'appelle « Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès ». Je cite donc les deux, à la fois Lorraine et Clotilde. « Manger peut devenir un acte politique et féministe lorsqu'il relie celles et ceux qui cultivent à celles et ceux qui nous nourrissent », ce qui rejoint largement vos propos, Bina.
Merci beaucoup, Elvira Masson. À lire d'urgence,
ah,
Agricultrice,
oui.
Semer, nourrir, résister de Clotilde Bateau aux éditions Les Pérégrines, une enquête
passionnante et indispensable.
Qu'on a très envie de lire. Merci beaucoup, Elvira. Chère Bina, j'ai lu dans votre livre que la cuisine était une affaire de femmes. Sauf les courses. Que se passe-t-il ?
Souvent, les hommes font les courses. En tout cas, dans ma famille, c'est un peu une espèce de tradition. Mm-hmm. Donc, ils vont au marché. Il y a une petite contrainte d'y aller tôt pour trouver les produits frais, de se lever plus tôt, etc. Donc, c'est une forme de répartition des tâches.
Et j'ai lu par ailleurs, toujours dans votre livre, évidemment, passionnant, j'en rappelle le titre, Inde, carnet de cuisine d'une famille du Kerala, 60 recettes intimes et gourmandes aux éditions de La Martinière, que vous avez coécrit avec votre maman. La cuisine dans votre famille, disais-je, c'est aussi une affaire d'homme.
Oui, puisque du côté de mon père, mon arrière-grand-père était le cuisinier du gouverneur français, parce que mon père était originaire de Mahé, qui est l'un des fameux 5 comptoirs français en Inde. Et donc, mon arrière-grand-père avait la tâche de faire de la cuisine française avec des ingrédients qui étaient spécialement approvisionnés pour lui et de garantir la qualité de la table du gouverneur.
On est en train de goûter et on se quittera avec ça. Un condiment d'une, là encore, fraîcheur extraordinaire. Je devine la présence du gingembre, mais également de la coriandre fraîche, me semble-t-il.
Parce que c'est coco aussi.
Et c'est la base de la coco.
Ouais. Oui, le grain de la coco qui roule sous la dent. Là.
Quel régal. C'est quoi ce condiment ?
Alors, c'est vraiment un condiment typique du Kerala. C'est un chutney de coco et coriandre qui se fait simplement en mixant tous les ingrédients ensemble avec une pointe de tamarin.
Ah, le tamarin qui apporte cette touche acidulée. Alors là, on évoque une espèce de pulpe fruitée. qui est beaucoup utilisé aussi dans la cuisine de l'Asie du Sud-Est. Hein, c'est en fait une fabacée. Au départ, c'est une gousse.
Oui, c'est une gousse.
Et il y a la pulpe
sécher,
qui entoure les graines.
On récupère la pulpe.
Et le tamarin, c'est extraordinaire, Elvira.
Acidulé, parfumé, délicieux. Et un peu sous-estimé, vous disiez.
Oui, Bina. Ça donne beaucoup de profondeur. Je trouve que c'est un ingrédient qu'on n'utilise pas assez souvent.
Et un autre condiment, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais on veut juste
c'est
son intitulé.
C'est un condiment citron et pâche
forane
fermenté.
Ça, c'est un voyage.
Et qui est sucré salé.
Donc citron fermenté. Ah ouais, super.
Citron confit.
Justine, rassurez-vous, la recette est à retrouver.
Ah ouais, c'est dingue.
Sur radiofrance.fr, à la page, on va déguster un vif et chaleureux. Merci.
Merci infiniment.
Chère Bina Paradin, d'avoir ensoleillé cette émission de toutes vos belles saveurs indiennes du sud du Kerala, du sud de l'Inde. Merci beaucoup. Inde, carnet de cuisine d'une famille du Kerala. Aux éditions de La Martinière, un grand merci pour votre visite. La semaine prochaine, on vous convie à un autre voyage, chers amis. Une île au patrimoine culinaire passionnant, Taïwan. Elvira Masson et Jérôme Gagnès feront partie du voyage à dimanche prochain, si vous avez encore faim.